Voilà, nous poursuivons la souvia de Bikur Cholim, Daf Mem Alef Amud Alef, à peu près 8 lignes du haut de la page. Amarabi Alexandri, Amarabi Ria Baraba, Enachole Omed Mecholio, Hache Mochali No Alkol Avonotav. Le malade, parle d'un malade en danger, ne remonte de sa maladie qu'une fois qu'on lui aura pardonné toutes ses fautes. Je ne pense pas que ça veut dire que refoua induit pardon gratuit. Mais certainement au contraire, s'il a fait ses preuves que par la tchouva, il a obtenu kapara sur toutes ses fautes, alors seulement on a pu lui accorder la refoua. Comme si la refoua, c'est un indice que certainement il a eu. Il a fait ce qu'il fallait pour être mis de kaper. Mais je ne pense pas que c'est en soi une cause de kapara. Parce que c'est comme ça que ça s'entend dans un pasouk. Et il est dit dans Tehilim que Hachem qui te pardonne tes fautes, toutes, et qui te guérit, tous tes maux. Ça veut dire que ça commence par la refoua du nefesh pour en venir à refoua ta gouf. Comme on dit qu'il n'y a pas de maladie sur le corps sans que la neshama soit malade par une avera. C'est la maladie de la neshama qui se répercute sur le corps. Et seul Hachem sait guérir la neshama. Mais ça, c'est par le biais de la tshuva. Donc s'il a été mit kaper se avonot, alors ça permet qu'il ait refoua du corps. Rav Amnuna amar chozer limé alumav. Rav Amnuna il dit que plus, lorsque quelqu'un lui fait la faveur de le guérir, comme s'il est rajeuni, il revient aux jours de sa jeunesse, ça veut dire il ressort encore plus renforcé qu'avant la maladie. Shneimar ruta fash besaro minoar yashuv limei alumav. Alors ce mot-là, je ne connais pas exactement ce qu'il signifie, mais en tout cas, ça parle de quelqu'un qui, oui, a fait l'objet de souffrances et de maladies, et yashuv limei alumav, il revient à ses jours de jeunesse. Point. Kol mishkavo afarta vecholio. Autre citation en rapport avec la refoua. C'est un pasouk dans Tehilim. Kol mishkavo. Afarta becholio. Tout la mishkav, tu as retourné dans sa maladie. Que ça peut signifier? Marav Yosef, lomar de mashkar limudo. Ça peut signifier que des fois un malade, il va oublier son Talmud, tout ce qu'il a appris. Toute la Torah qu'il a appris, il peut l'oublier. Et c'est Rav Yosef qui le dit. On va voir que ça lui est arrivé. Et comment ça s'entend du pasouk? Je ne sais vraiment pas si ce n'est l'indice que j'ai dans Pirush Rashi. Rashi nous dit Kol seder atzat limudo hamesudar lo nefarlo becholio umeshakecho. J'ai l'impression que Rashi parle par allusion pour nous aider à comprendre comment ça émane de ce pasouk, parce qu'un mishkav c'est un lit qu'on a l'habitude de bien border, de soigner, de bien arranger soigneusement. C'est ce qu'on appelle Atza'at Amita. Alors là aussi, l'étude, tout est bien rangé, soigné, organisé dans sa tête. C'est ce que Rashi traduit Kol Seder Atza'at Limudo. Eh bien, Farta, tu as chamboulé par sa maladie. Donc tu as mis la confusion dans sa tête, toutes ces connaissances qui se brouillent. Tout ça, c'est l'effet de la maladie dans certains cas. Alors, voilà, phénomène lié à la maladie, nous dit Rav Yosef. Et la Gemara nous dit que Rav Yosef Khalash, lui-même, une fois il était malade, et Karle Limoudei, son Limoud s'est déraciné. Ça veut dire, il a complètement perdu la maîtrise de ses connaissances. Adre Abaye Kame, Abaye lui a restitué, il lui a rappelé les enseignements, parce que Abaye, c'était un talmide qui maîtrisait, qui connaissait, qui savait restituer, même peut-être des années après. Et la Gemara dit que Aïnou de Bechol d'Urta Amrinan, c'est ce qu'on dit à chaque fois, dans toutes sortes de références. Amar Rav Yosef, lo shmi aliyah damin shmata. Rav Yosef, il est étonné, il dit, cet enseignement, je ne l'ai pas entendu. Amar le Abaye, Abaye le reprend, lui disant, Atamrita nilan. Mais c'est pourtant toi-même qui nous l'a enseigné. Et c'est de cette source, de cette Mishnah ou Braïta, que tu nous l'as prouvé. Et donc, c'est ce que la Gemara confirme, que Abaye, souvent, c'est lui qui rappelait à son maître ce que dans le passé il avait appris. Ki avagamir rabbi, tzlat asre ape hilcheta. Rabbeinu Akadosh, quand il étudiait des sujets, alors il l'étudiait sous 13 angles ou facettes, le même sujet. C'est ça, 13 apin, panim. Agmerel et Rabbi Chia, Shiva Minon. À Rabbi Chia, son Talmud, il n'enseignait que 7. Chaque sujet de Halakha, il l'abordait, il le développait, il enseignait à son Talmud sous 7 facettes différentes. La sof, Halash, Rabbeinu, Rabbi. Rabbi, une fois, il est tombé malade. Ada Rabbi Chia Kamei, Anu Shiva Ape. C'est Rabbi Chia qui lui a tout restitué. C'est 7 panim de chaque sujet. Alors c'est déjà énorme. Il lui a fait revenir le rov de ses connaissances, on va dire. Les Shiva Ape de Agmeré qui lui avaient enseigné. Shita Asdu. Et il y en a 6 qui sont partis, c'est-à-dire que. Et il n'a pas réussi à retrouver. Hava ou Katsra. Il y avait ce blanchisseur. Havashumi allé les rabbis, que des avagaris léou. Il était à l'écoute de Rabbi quand Rabbi il travaillait ses sujets. L'igros, c'est oralement, travailler un sujet, le répéter. Alors certainement, une fois que Rabbi il était arrivé à Mahalach, dans un sujet de Halakha, il le présentait certainement, peut-être pour lui-même, clair, tellement bien dit, que quelqu'un était là, il l'écoutait, il avait enregistré. C'était un katsra, mais certainement un talmid de Rabbi, qui était blanchisseur. Et donc, on raconte que c'est lui qui est venu sauver Rabbi, qui lui a restitué. Alors, Azal Rabbi Chia Vegamar Yaton Kame Katsra, Rabbi Chia est allé le consulter, et il est allé apprendre de chez le blanchisseur les 6 facettes manquantes. Ve'ata ve'adar yaton kamei Rabbi. Il est revenu les restituer auprès de Rabbi. Kadava chazele Rabbi le Aukatsra. Quand Rabbi il a rencontré ce blanchisseur à Marley, Rabbi, ata sitaoti. C'est toi qui m'as fait, fabriqué. C'est difficile à traduire, mais Rashi nous dit c'est au nom de quoi, de cette notion qui est connue, que celui qui met la med et ben chaverot Torah. Malé à la vakatouf keilu asa'o. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, bien Avraham Avinu, c'est l'idée que tu as construit quelqu'un en lui enseignant, en l'instruisant, Torah. Alors là, bien sûr que cette rochma vient de Rabbi initialement, mais comme elle a été perdue, donc il a perdu sa ma'ala. Et quand ce katsra lui a fait restituer par l'intermédiaire de Rabbi Chia, ça s'appelle que tu m'as constitué, tu m'as restitué ma ma'ala de Chacham. C'est ça, Asita Oti. Tu m'as reconstruit, on va dire. Ve'etria, et Oti ve'etria. Moi et mon Talmid Rabbi Chia. Kadamre Achika Marle. Ata Asita Etria, ve'ria Asa Oti. Il y en a qui disent, toi tu as bâti Chia, qui lui m'a bâti à nouveau. Bon, c'est une nuance, mais il faut voir quelle est exactement la subtilité. Voilà que même si un chacham il avait perdu, ça existe que il peut retrouver. Voilà, par tous les moyens, il faut essayer de retrouver ce qui a été oublié. Amar Rabbi Alexandrie, Amar Rabbi Chia bar Abba Gadol Nes Shenasa Lecholei Yoter Min Nes Shenasa Lechananya Michel Vazaria. Le Nes qui est fait à un malade est plus important que celui qui a été fait à Hananiah Michel Vazaria, qui ont été sauvés miraculeusement, parce que le nest de Hananiah Michel Vazaria, esh shel idiot, c'était le feu des humains. On les a jetés au feu, très bien, mais c'est un feu naturel, ve'akol yecholim lechabota, un tel feu, n'importe qui peut l'éteindre. Ça veut dire, c'est pas invraisemblable. Alors c'est vrai que il n'y a pas eu les pompiers, ils ont eu la vie sauve malgré tout, mais ça reste un danger auquel un homme peut se mesurer. Si on a moyen, on peut éteindre un feu. Tandis que Zou, Shel Cholé, ce nest du malade, c'est quel feu, c'est-à-dire sous-entendu la fièvre, certainement, c'est comparé au feu. C'est le feu du ciel. Shel Shamaimi, ou Miyachol Echabota, qui maîtrise, qui peut éteindre ce feu. C'est un feu que souvent on n'arrive pas à maîtriser. Alors, ce feu-là, cette maladie, c'est un est encore plus important que de l'avoir surmonté. Voilà. Vamarabi Alexandre, Marabi Riabaraba, Vamrela Marabi Shua Benevi, Kivan Shegia Kitso Shel Adam. Dès lors qu'arrive le moment de l'homme, c'est-à-dire qu'on a jugé dans le ciel, comme on va voir que c'est son moment, Hakol Moshlinbo, tous peuvent dominer, ça veut dire qu'ils se rendent chaliar de Hachem pour appliquer le décret. Et ça veut dire quoi tous? Même des éléments insignifiants qui d'habitude n'ont pas vraiment de pouvoir sur une personne, voilà que pour appliquer le décret d'Hachem, si c'est son heure, eh ben n'importe quel élément peut se rendre chaliar pour appliquer le décret. Shenema vaya kol motzi argeni. Il a dit Caïn, tout celui qui me trouvera pourra me mettre à mort. Tout celui qui me trouvera, sous-entendu, même un élément insignifiant qui d'habitude n'a pas d'emprise sur un homme. Rav Amar, Minadenkra, Ravi nous prouve ce concept d'un autre pasouk, le Mishpatecha, Mdouayom, qui akol avadecha. À ta justice, ils se sont tenus aujourd'hui. C'est alors que tous deviennent tes serviteurs. Que veut dire tous deviennent tes serviteurs? Tous les éléments présents peuvent se constituer chaliar d'Hachem pour appliquer le décret. Si on a tranché, voilà, pour une personne, on a présenté à la justice là-haut, on a décrété que c'est son dernier moment, alors tous se rendront chaliar d'Hachem, deviennent les serviteurs d'Hachem pour appliquer le décret. On va voir tout de suite des illustrations avec une histoire ou deux. Rabba Barshila Amroulé, Rabba Barshila, ils lui ont dit, ils lui ont annoncé, Shachiv Gavra Gavoa, il va mourir l'homme qui est haut. Peut-être ça veut aussi dire Chacham, qui est Chachouv. Mais en tout cas, il y a des Rishonim qui ont traduit Chachouv et littéralement aussi Gavoa veut dire haut. C'était certainement son cas à lui. Qui lui a annoncé? Il y a une version selon laquelle il y avait écrit dans la Gemara Kaldae. Kaldae, c'est comme des voyants, comme on dit, oui, des voyants qui voient dans les étoiles. Alors, ils ont vu le sort du Chacham qui allait, voilà, ils l'ont annoncé. Havarachiv Giruduna Zutra. Il était en train de chevaucher une petite mule. Matatitura est arrivé au pont, à hauteur du pont, istavit, l'animal s'est étourdi comme excité, chadier. Il l'a balancé dans le fleuve, la mule a balancé Rabba Barshila à l'eau. Veka Shachiv, il était en train de rendre l'âme, entre guillemets. Kareal Nafshe, il a lu, il a appliqué à son sujet, le mishpatecha meduayom, ki akol avadecha. Il faut rajouter les trois mots, qui a kol avadecha. C'est ça l'essentiel, que comme c'est le jour où on m'a présenté à la justice et que c'est arrivé mon heure, voilà que même une petite mule insignifiante, devant un homme grand, elle a une emprise qu'elle a réussi à le mettre à mort. C'est quoi? Normalement, un homme il peut dominer plus facilement un animal pareil, ou c'est pas. Et là, voilà que il advient une chose pareille. C'est ce que le pasuk annonce. Akol avadecha. Tous deviennent shlichim d'Hachem, même des éléments pas forcément redoutables. Autre histoire. Shmuel Chaziel Ahu akreva yativa alakarukta. Shmuel, il a remarqué un akrav qui était installé sur une grenouille. Ve'avra nahara, qui était en train de traverser le fleuve. Le akrav ne sait pas nager. La grenouille, elle nage et elle transporte le hakrav. Scène invraisemblable. Elle traverse tout le fleuve, Tarka Gavra Umait. Et c'est comme ça que le scorpion, il a piqué un homme qui est mort. Kare Ale, il a lu à son sujet, c'est-à-dire il a appliqué le pasouk, Lemishpatecham Duayom, Ki Akol Avadecham. Le même concept que voilà, si un petit élément de la nature aussi insignifiant peut orchestrer la mort d'un homme, c'est quoi la grenouille? Oui, mais avec associé et conjugué avec le akrav, ça donnera qu'il va mourir là dans la minute. Ça, c'est vraiment que tout se met en œuvre pour appliquer la volonté d'Hachem, le décret du moment. Point. Amar Shmuel. On ne rend visite à un malade que celui que la fièvre l'a quitté. Je traduis selon Rashi. Il y a Rashi qui traduit comme ça ailleurs. Chaltzato chama shalafto nitla migufo chama. Mais Rani traduit exactement le contraire. Shalav shato chama, que c'est armé sur lui la fièvre. Comme tu dis, par exemple, un guerrier, il est chalutz. Chalutz, ça veut dire armé. Alors aussi, l'expression ici, c'est que quelqu'un qui s'est armé d'une fièvre, c'est-à-dire qui est pris de fièvre. Alors, deux explications, on va voir comment s'en sortir. Pour l'instant, on va rester avec Rashi. Celui dont la fièvre a lâché prise. Donc, il est... Alors, on peut déjà aller lui rendre visite. La Fukemai, ça exclut quoi? La Fouquet a détania. Ça exclut ce que la Braïta a précisé, Rabbi Yossi ben Parta Omer, Mishum Rabbi Eliezer. En mevakrin, lo chole me'ayim, ve lo chole ha'in, ve lo mechouche ha'roche. On ne rend pas visite ni à ceux qui sont malades au niveau des intestins, ni ceux qui sont malades au niveau des yeux, ni mechouche ha'roche, ceux qui ont les maux de tête, certainement des migraines très poussées. C'est certainement ça qu'on va entendre ici. Chama, la fièvre, des fièvres très poussées, ça fait des maux de tête. C'est ce que je crois comprendre, en tout cas. On va essayer de travailler comme ça, la Gemara, pour aller jusqu'au bout. Bishlama, chole me'ayim, la Gemara veut comprendre. Encore, chole me'ayim, ça s'entend. Pourquoi tu vas pas le rendre visite, le pauvre? Parce que Mishum qui souffre, ça peut lui faire honte. Quand il est indisposé, il a besoin de se soulager, parce que, et de manière récurrente, parce qu'il souffre, etc. Alors, toute sa digestion, elle est détraquée. Ça l'indispose. Alors, ne va pas lui rendre visite. Ça ne lui fait pas du bien. Et la choléa yin, ou merkouché à roche, maïtama. C'est des malades comme des autres. Pourquoi tu ne leur rends pas visite? Mishum de Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda, dibura kashia la ena. La conversation, c'est mauvais pour les yeux. Ça veut dire pour quelqu'un qui souffre des yeux, c'est pas bon d'engager la conversation. Or, quand tu rends visite, le malade, il a envie de vider un peu tout son sac. Il va te raconter, il va parler, tu vas certainement engager avec lui. Et souvent, c'est aussi le but de la mitzvah de Bikur Cholim, comme j'ai dit, au nom de certains rishonim. Et ça se ressent dans la sugya que quand on rend visite, il y a forcément un échange, etc. Et bien là, c'est contre-productif parce que c'est mauvais pour la maladie des yeux. Et également, je vais lire la version du gras. Version corrigée d'après le gras, c'est Kashia le Eina Veleishata. C'est mauvais pour les yeux et pour la fièvre. Qu'est-ce que c'est avoir la fièvre? Je t'ai demandé pour deux sujets. La maladie des yeux et Mechouche Haroche, les maux de tête. Ces deux maladies, tu me réponds par deux sujets identiques, forcément. C'est que, comme j'ai dit, Eshata est associé à Mechouche Haroche. Les maux de tête, les migraines dont on parle ici, c'est la fièvre très prononcée. Et là, ça aussi, nous dit l'Agmara d'après la version du gras, c'est pas bon d'engager la discussion quand on a ce genre de maladie. Est-ce que c'est une simple fièvre ou c'est peut-être une fièvre très poussée? Je sais pas, je connais pas exactement. Des fois, échata, hein, c'est pas, je ne suis pas sûr que c'est une stam une fièvre. C'est possible que c'est une fièvre très, très peut-être, je crois, le typhus, non? C'est une fièvre très forte, il me semble, non? Il me semble. En tout cas, c'est possible que ce n'est pas une fièvre de routine. Et là, en tout cas, j'ai suivi le commentaire de Rashi associé avec la version du gras. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Roche, effectivement. Le Roche, il commente. C'est marqué « Dibura kashia le eina » dit le Roche « Vechen ami le michoucha roche » Parce que c'est la même réaction naturelle qu'en parlant pour l'un et pour l'autre, pour ces deux mots, la discussion c'est mauvais, c'est contre-productif. Donc le Roche, il avait certainement la version du gras, mais je pense que cette version, elle est bien d'après Rashi. Que c'est quoi Khaltzato Chama? Disait Shmuel, tu ne rends visite à un malade que si Khaltzato Chama, c'est-à-dire qu'il a dépassé cette fièvre. Parce que tant qu'il y a la fièvre et il y a les maux de tête, c'est pas le moment, ça lui fait pas du bien, tu aggraves la situation. Mais une fois que ça s'est passé, mais qu'il est encore malade, alors là, oui, c'est le moment d'aller lui rendre visite. Alors là, on a un malar cohérent d'un bout à l'autre. J'ai associé Rashi avec le pirouche du Ran du Roche et du Gaon. Et donc, c'est sûr que d'après l'explication du Ran plus haut, ça colle pas tout ce qu'on a dit. Je redis ce qu'il disait le Ran. C'est quoi Khaltsato Chama? C'est au contraire, le malade que la fièvre s'est attrapée à lui, comme il s'est armé d'une fièvre, entre guillemets. Khaltsato, Milachon, Khalutse, Tsava, qui sont armés. Alors s'il est, il est pris par la fièvre, faut pas aller. Non, au contraire, faut aller que s'il a la fièvre. Alors qu'est-ce que ça va avec la suite? Yamar Avuda Dibura Kashia Leina ou Male Leishata. Mais si c'est bon pour. Alors justement, c'est ce qu'il faut dire. Que le Ran, il avait la version que nous avons. Male Leishata. Autant le Dibour, il est mauvais pour les yeux, autant il est bon pour la fièvre. Donc, il faudra dire que la fièvre et Mechouché à Roche, ce n'est pas tout à fait la même chose d'après le Ran, forcément. Et donc, échata à la fièvre, c'est bon d'échanger, de parler, de converser. Alors, Shmuel, il disait, on ne rend visite au malade que celui qui est atteint d'une fièvre. Bien sûr, ça ne veut pas dire... Mais c'est pour dire, surtout quand il y a une question de fièvre, c'est là où le fait de parler, d'échanger, ça va lui faire du bien. Donc, vas-y, Bedavka. Exactement le contraire de Pirouché à Roche et Rashi. Voilà. C'est deux malchim dans la soubia. Ensuite, Amarava. Hayeshata, il lave des parvanka, des malacha, des mota. Maale, cette échata, cette fièvre, si ce n'était la shlichou du malacha mavet, si ce n'était pas causé et envoyé par le malacha mavet, maale, kechizra le dikle, ça aurait fait du bien, autant chizra au palmier. C'est quoi Khizra? Alors, je crois que, d'après certains Rishonim, ça s'entend, les palmes autour du tronc du palmier, les anciennes palmes qui ont été coupées, sectionnées, sont une protection pour la production d'un palmier, que les rongeurs ou les animaux ne montent pas comme ça facilement pour aller grignoter là-haut. Et donc, ça protège le palmier. Alors, Khad l'Etlatin yomine, une fois par 30 jours, une telle fièvre aurait fait aussi du bien à l'homme. Mais c'est une fièvre qui peut être mortelle. Mais c'est ce qu'on appelle qu'elle est shloucha, elle est envoyée par le malach amavet. Mais s'il n'y avait pas ce danger, ce risque, ça pourrait faire du bien quelque part. Il comprend, il sait que ça peut faire du bien à la santé que d'avoir une fois de temps en temps cette fièvre. Pardon, tiryaike le goufa. Alors tiryaike, c'était une médication de l'époque, dont les ingrédients, c'est possible que c'est mentionné ailleurs, il me semble, mais je ne me rappelle plus exactement, il me semble. Et donc, en tout cas, c'était une médication connue de l'époque. Alors, comme cette médication emblématique, c'est bon pour le corps, cette fièvre. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Lohi Velo Tiryaika, je me passerai d'elle et de son bienfait que tu compares à Tiryaika. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le risque que ce soit fatal. Point. Amar Rabba Bar Yonatan Amar Rabbi Chiel, Arsan Yafé la Cholé Lirfuato. Il y a le Arsan, c'est un ingrédient qui est très bon pour la refoua d'un malade. May Arsan, Amar Rabbi Yonatan, Chouchla de Sahare Atikta, Derish Nafia. Alors, c'est de l'orge ancien qui est décortiqué, c'est ça, Chouchla de Sahare Atikta. Donc, de l'orge qui a traîné longtemps. Derech Nafia, qui est collé aux différentes sortes de tamis, Napak, Vara, quand on tamise. Il y a des résidus qui collent, et qui collent au tamis, et ce résidu-là, tu le récupères, et il a des vertus guérissantes. Amar Abaye, Bayan, Bishula, Ken, Bisra, Detura. Mais ça requiert un bishoul, comme la viande de bœuf, la viande de taureau. Ça, il faut la cuire bien, 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 ça prend du temps. C'est dur à cuire. Alors la même chose ici, il faut le cuire bien, bien comme il faut pour que ça ait cette vertu. Rav Yosef Amar, c'est midé de Sahare à Tikta. Rav Yosef, il donne une autre traduction. Qu'est-ce que ça peut être, arsan? Ça peut être de la farine d'orge, atikta, ou peut-être c'est une autre proposition, puisque c'est le même élément, c'est toujours de l'orge. Alors ils nous disent, c'est la farine d'orge ancienne, des rishnafia aussi, qui reste collée au tamis. Amar Abaye, bayan bishula ke bisra de Toura. Une fois de plus, Abaye précise, mais ça requiert un bon bishoul si on veut que ça agisse. Point. On connaît la mise en garde de Rabbi Akiva Eiger au nom de, je ne sais plus, peut-être le mari, il me semble, qu'on ne doit pas, et on doit pas s'employer à appliquer les médications que la Gemara développe parce que peut-être qu'on ne sait pas bien appliquer les directives de Chazal. Et voilà. Et donc, là, on nous parle d'un principe actif. Il y a de quoi guérir. Oui, d'accord, mais est-ce que tu sais pour autant comment t'y prendre ? Un connaisseur te dira, oui, il faut faire comme ci et comme ça, etc. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, ou des fois, on ne comprend pas exactement la vraie nature de chaque élément, chaque ingrédient, etc. Et on peut se tromper. Et après, on en viendrait à redire sur les conseils des Chachamim. Comme si ça ne marche pas. T'as vu, j'ai fait ce qu'elle a dit, la Gemara, ça n'a pas marché. Alors, on n'essaye pas du tout, comme ça, ils disent. Ensuite, Amar Rabbi Yochanan, bordam. C'est un mot composé, c'est comme bordam. Un puits de sang. C'est une manière imagée de parler pour désigner une maladie qui cause des saignements. Quand la personne elle a certainement une maladie au niveau des intestins, alors ça sointe du sang. Et là, elle mévacrine. Un tel malade, on ne lui rend pas visite. Ven maskirin shemo. On ne mentionne pas cette maladie. Le nom de cette maladie, il ne faut pas le mentionner. Tout de suite, on explique. Maïtama. Marabi Elazar mipneshu ke mayana noveya. C'est comme un mayana noveya. Ça veut dire que c'est très contagieux. Une source qui est effervescente, hein, qui a un bouillonnement comme ça. Alors la même chose, et c'est très contagieux. C'est qu'au fait, miser les ais. Comme ça, il dit Rashi. Et donc, comme c'est très contagieux, on ne va pas rendre visite. Ou bien, peut-être parce que d'autres diront, il ne peut pas maîtriser. Le sang peut venir à tout moment et sa digestion est très dérangée, etc. Et quand tu viens le rendre visite, tu l'indisposes encore plus. Peut-être qu'il est en souffrance et il ne maîtrise pas la situation et ça peut encore plus l'indisposer qu'autre chose. C'est mieux de ne pas aller lui rendre visite. D'accord ? Et deuxième élément, on a dit, on ne mentionne pas le nom de cette maladie. Alors, Vamar Rabbi Elazar, la manikra shemo bordam, shuk mayana novea. On appelle ça bordam parce que c'est comme une source d'eau qui est effervescente. Ça veut dire qu'il peut y avoir des saignements non maîtrisés et ça indispose le malade. Et donc, c'est pourquoi on ne doit pas mentionner non plus ce nom-là. Rabbi Elazar nous a donné la résonance de ce terme. Bordam, c'est pas très élogieux. Tout le monde a compris que ça veut dire des saignements qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ça indispose. Et au point que certains rishonim traduisent pourquoi il ne faut pas mentionner ça, c'est en présence du malade, parce que ça lui fait honte. Si on dit à quelqu'un, bon, il a telle maladie, bon, on a pitié de lui, on a de la compassion, ça ne va pas le vexer, le blesser pour autant. Mais si c'est quelque chose de cet ordre, on peut comprendre que ça indispose, ça lui fait honte. Pour ça, on ne le mentionne pas. D'autres disent, on ne le mentionne pas du tout, parce que c'est comme un terme qui n'est pas la chône et qui a, vu que c'est des saignements qui viennent, oui, par les intestins et tout ça, alors c'est pour ça que ça ne se mentionne pas. Ensuite, Merapeu refuata nefesh, c'était la deuxième partie de la Mishnah qu'on a laissée en suspens, et maintenant que la Gemara va nous l'expliquer. Je relis la Mishnah, Yamudar anamechavero, il peut être Merapeu, refuata nefesh, mais pas refuata mamon. Alors, comment on va traduire ces deux termes ? Et comment on va comprendre le sujet ? C'est ce qui arrive tout de suite. Erekatani. Comment nous enseigne cette Mishnah le sujet ? Il est maderfouat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a voulu exactement nous dire ? Il est maderfouat nefesh berchinam, refouat mamon misrar. Si refouat nefesh, ça veut dire un soin gratuit. Et par opposition à refouat mamon, qui veut dire bisrar, Et pourquoi le mot nefesh désignerait chinam, bénévole? Parce que nefesh veut dire le ratson. Comme ça, il dit le ran. C'est comme si on va dire un soin de bonne volonté. Il vient bénévole. Et le médecin, il vient en tant que bénévole, alors il peut. Mais s'il vient pour être rémunéré, il peut pas. Et là, ça voudrait dire que qui est le mudarana mechavero? Le médecin est astreint par le vœu. C'est à lui de ne pas profiter des nechassim du patient. Alors si tu viens le soigner et tu le factures, bah, tu es en train de gagner. Bah, ça, non. Mais si tu viens en bénévole, ça, oui. Tu ne repars pas gagnant. Après, le malade, il profite. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lui le moudar. Ce n'est pas lui qui est sujet au neder. Alors, ça pourrait être une lecture. Sauf que la Gemara nous dit, dans ce cas-là, l'itneachi, voilà comment il fallait enseigner. Mais rapéou bechina, mais va l'obisrar. Fallait être direct. Il peut le prendre en charge, le soigner, gratuitement, et pas bisrar. Pourquoi t'as besoin de donner des termes un peu bizarres? Refouat nefesh, mettre des étiquettes sur ce genre de soins, ça s'appelle un soin bénévole, ça s'appelle un soin d'argent. C'est pas vraiment les termes habituels les plus appropriés. Et là, il faut dire plutôt, et la refouat nefesh, ça signifie gouffo. Soin à la personne. C'est comme ça que je vais traduire refouat nefesh. Quand on vient soigner la personne elle-même. Et refouat mamon, c'est les biens. Et quels biens ont besoin de refoua? Bah, des behemoths. Alors tu peux venir soigner le moudar. Et là, c'est le cholé qui est sujet au neder. Mais pas assez bien, pas assez behemoths. Si c'est sa behema qui a besoin de soins, tu ne peux pas venir soigner sa behema. Donc quand l'autre est moudar ana'a, pas le médecin vétérinaire, quand l'autre il est moudar ana'a, le médecin vétérinaire peut se dévouer pour le cholé. Personne, c'est ça une personne, refouat nefesh. Mais refouat mamon, la refouat des animaux, ça non. Comment on comprend le sujet? Alors d'après le Rosh, ici dans son commentaire, refouat nefesh, quand tu soignes une personne, c'est une mitzvah. Tu vas pas demander d'argent. Et comme tu demandes pas d'argent, alors ça s'appelle que tu lui rends pas un service qui vaut de l'argent. Même que tu le soignes gratuit, t'es pas en train de lui apporter un service qui est payant d'habitude. Donc ça s'appelle pas une ana'a, comme on a déjà vu ce concept à plusieurs reprises, qu'un service qu'on accorde d'habitude gratuitement, ça s'appelle pas une ana'a. Et dès que c'est payant, oui, c'est reconnu comme une ana'a. Donc là, il dit le Roche que comme tu réclames pas de sakhar, alors, je crois que certains disent que si on est dans un endroit où on rémunère pour les soins, même que c'est une mitzvah de guérir un juif qui est malade, mais il faut croire, et là je connais pas exactement, c'est quoi exactement le din au niveau de la rémunération, parce que d'habitude, pour une mitzvah, on peut pas réclamer de sakhar. Shavat Aveda, c'est que comme on avait dit, le manque à gagner, parce que j'ai pas pu aller au travail ce jour-là pour m'occuper de ta Aveda. Mais le service même de la Hachava, je peux pas réclamer 1 euro. Pourquoi? C'est mon devoir, c'est la mitzvah. Ou bien on a appris ça même de l'Imout Torah, que l'enseignement, Moshe Rabbeinu l'avait dit, Midrash, Halachot, tout, Chukim ou Mishpatim, on enseigne Ma'ani Bechinam, Afatem Bechinam. Et ça s'exporte aussi au Kiyum de certaines mitzvot, qui sont des services de l'un envers l'autre. Quand tu fais un devoir qui est un tzivouï de la Torah, ne dis pas « paye-moi en contrepartie ». Tu as fait ton devoir et c'est tout. Alors, c'est vrai que guérir quelqu'un qui est malade, si tu es capable, tu fais ton devoir. Est-ce que c'est interdit de réclamer des honoraires de médecin? C'est difficile à l'entendre, mais le Roche semble dire « mitzvah ka vidve notlin alea sachar ». Et je pense que peut-être l'intention du Roche, c'est qu'il y a des endroits peut-être où quand quelqu'un est en danger au moins, on lui vient en aide sans lui demander d'argent. Ah, tu prends de l'argent quand c'est une petite fièvre, une petite grippe, un petit truc comme ça. Mais quand il est mourant et tu viens pour lui sauver la vie, tu vas encore lui demander de l'argent? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est peut-être ça l'intention du Roche, je ne suis pas sûr. Et alors dans ce contexte-là, tu peux venir le guérir, parce que c'est un service non rémunérant. Alors ça ne s'appelle pas une anat, mammon, et c'est permis. Maintenant, par opposition à ça, pour l'animal, on t'a pas permis. Ça reste assourd. Pourquoi pour l'animal, c'est assourd? Et dit le roche, parce que lo mitzvah kavid, est-ce que tu fais une mitzvah que de guérir l'animal de l'autre? Et donc, quand tu viens sans demander de sachar, mais pourtant tu peux réclamer, et toute personne réclame un sachar, la bema elle souffre, le vétérinaire il vient, il facture. Et donc, c'est un service payant d'habitude. Et au moudar, tu lui fais ce service gratuit, ben, ça doit être assourd, et ça ne peut être que assourd. Et c'est pas comme Marzir Aveda, dit le Roche. Ce n'est pas comme Marzir Aveda. Marzir Aveda, on avait vu, tu rends l'Aveda au Moudar Anaa, c'est permis. Tant qu'il n'y a pas de rémunération, tant qu'il n'est pas question de rémunération, d'accord? Et là, on ne dit pas que c'est comme Marzir Avedato. Pourquoi? Parce que la Torah t'a pas demandé de guérir l'animal de l'autre. C'est bizarre. C'est bizarre. Comment tu dis que la Torah t'a pas demandé de guérir l'animal de l'autre? Pourquoi pas? Moi, je connais le principe d'un Shavat Aveda. Shavat Aveda, c'est Atzalat Mamon. C'est pas juste lui ramener un objet perdu. C'est un concept plus large que la Gemara développe, Maseret Balantia, que voilà, tu vois, il y a une crue qui va inonder le champ d'un voisin. Si t'as moyen de mettre un barrage, mais des, je sais pas moi, des sac de sable, je ne sais pas, pour dévier l'eau, ça lui sauve son champ, t'as le devoir. C'est Atzalat Mamon, c'est le concept de la Shavat Aveda. Tout ce qui est préservation des biens d'autrui, c'est la Shavat Aveda. C'est pas que lui ramener un objet. Si tu vois son animal, il est mourant et tu sais lui sauver la vie, eh bien, la Shavat Aveda, logiquement. Je crois que c'est ça que le Yavet, il voulait répondre. Le Yavet, il commente l'intention du Roche en disant, quand il y a un autre médecin qui peut prendre en charge, toi, le Bala Béma ne peut pas profiter de toi, il y a un éder. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de sa Béma. Alors là, d'accord, la Torah t'a pas demandé à toi de venir tout de suite sur place, en urgence. Peut-être pour une personne, oui, même s'il y a d'autres médecins. Alors il y a une svara dans les Rouchalmi, que Loran il a cité aussi, que l'homme il a col, on est zoché d'être mitrapé. Même s'il y a un autre médecin, mais si lui il peut apporter ses compétences, et peut-être c'est lui qui va te sauver la vie plus que l'autre. Alors même qu'il y a un autre médecin, c'est justifié que celui-là, il vienne, ça s'appelle que c'est lui plus qu'un autre. Tandis que pour un animal, ça change rien qu'il vient. Il y a un autre médecin, alors toi, tu te mêles pas. Parce que c'est plus une Shavat Aveda, c'est plus une mitzvah. Non, l'animal est pris en charge. C'est comme l'animal, il traite. L'objet est perdu dans la rue, quelqu'un il va s'en occuper. Alors voilà, t'es pas obligé de toi. C'est pris en charge. Mais quand il n'y a personne, ah, l'animal il va mourir, mais c'est un Shavat Aveda. Donc, là, ce serait une mitzvah, hein. Ce serait autorisé. C'est ce que les Chahora, on peut entendre dans le Roche, selon la précision du Yavetz. Et je crois que dans le Roche, dans les Psakim, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Que dès lors que c'est une mitzvah de sauver la Béhéma, alors ce sera un moutard. Et c'est ce qu'on voit aussi, a priori, dans le Ran. Le Ran, il dit, quand est-ce qu'on a interdit de soigner l'animal, refouat mamon, la refoua sur les biens du moudar, c'est-à-dire ses bémotes, eh bien, ce n'est pas autorisé que s'il n'y a pas d'autre refait. Pardon, que si c'est interdit que s'il y a un autre refait. Parce que s'il n'y a pas d'autre vétérinaire, alors on a bien vu que Marzir lo aveda to. Or, soigner un animal, en echa shavak do la miso. C'est comme je disais à l'instant, que ça s'appelle une shavat aveda, que de sauver un animal de la mort. Tu lui sauves son bien. Et donc, c'est une mitzvah. Et la vadaï, on parle ici quand il y a un autre. Et donc, toi, tu n'as pas la mitzvah. Et donc, c'est pourquoi c'est assour. Mais tout ça, c'est un discours qu'on voit ici dans le Ran. Et que je crois aussi que c'est ce que le Roche il dit dans les Psakim, mais c'est ce qu'on peut aussi adapter dans le Pirush HaRosh. Sauf que sur ça, il y a Rabbi Akiva Eiger qui a une kushia ici dans la marge. Rabbi Akiva Eiger, il a la kushia suivante. Si on a permis plus haut de faire Ashavat Aveda au Moudar Anaa, c'était parce qu'on avait dit Mavri Achari. Tout ce que je fais, j'écarte le lion. Je lui enlève un tracas. au lieu que le troupeau disparaisse, j'ai tué le lion, j'ai dissuadé le lion, alors ça a sauvé, mais je t'ai rien donné. Je t'ai rajouté 1 euro, pas du tout. Ton troupeau, tu l'avais, tu l'as. Tant mieux. Mais je t'ai rien rajouté de plus. C'est pas parce que j'ai fait une mitzvah qu'il y a une autorisation particulière. Et là, le problème, c'est que quand l'animal, il est malade, et je veux l'épargner de la maladie, je dis pas que c'est mavriachari. Pourquoi je veux dire que c'est juste mavriachari? Je ne fais que te rendre ta bête. C'est pas vrai. Ta bête, elle est mourante. Et moins 5, elle meurt, et moi, je te la fais vivre. Je te l'ai retapé, ta bête. Regarde, elle ne travaille plus depuis les 5 jours. Elle ne travaille plus. Elle ne bouge plus le petit doigt. Elle a plus les forces. Maintenant, tu vois, elle repart. Hop. Et ben, ça s'appelle une ana, clairement. Et là, c'est pas juste écarter un mazik, écarter le lion. C'est comme retaper la BMA. Et ça, c'est une ana. Et il voit pas pourquoi ce serait moutard. Juste parce qu'il n'y a personne d'autre pour assurer, alors il y a mitzvah, et alors qu'il y a mitzvah. Mais mitzvah, ce n'est pas ça le éther. Le éther, c'est parce que, pourquoi j'ai permis à Shavat Aveda, le Ran l'avait dit plus haut, pourquoi j'ai permis à Shavat Aveda? Parce que je ne t'apporte rien de nouveau. Le bien, il t'appartient. J'ai juste enlevé un danger qui planait sur ce bien. Mais je ne l'ai pas amélioré. Les brebis, elles sont les mêmes. Elles se portent très bien, elles n'ont rien remarqué, elles sont très bien. Alors que là, l'animal malade, ben, il est affaibli, il peut plus travailler. Donc, t'es mashbiach, l'animal lui-même. T'es mashbiach, nechassav, ça s'appelle une ana, c'est assour, c'est tout. C'est ça que demande Rabbi Akiva Iger, il reste betzari chiyun. Faut voir quelles sont les réponses, il y aurait des réponses à cette question. Maintenant, on avance. Amarav, non, pardon, Amarav Zutra Bartouvi Amarav. Aval Omerlo, Sam Peluni a fait là. Sam Peluni ra là. Il peut dire, voilà, il peut donner un conseil médical en tant que vétérinaire. Il dit, voilà, tu sais, tel produit, ça ferait du bien à ta bête. Ça, il peut lui livrer des informations de cet ordre-là, dans la mesure où lui-même n'intervient pas. C'est pas lui qui applique le traitement, la médication à l'animal. Alors ça, c'est permis. Parce que si Nana des Mimela, c'est pourquoi c'est permis. Maintenant, tout ce qu'on a dit que c'est moutard, pour le moudarana de venir soigner, pour le médecin de venir soigner le cholé qui est restreint par un vœu, le cholé n'a pas le droit de profiter du médecin, alors c'est seulement si le médecin, on l'a dit, d'accord, il vient, il soigne, même activement, mais la médication n'appartient pas, les médicaments n'appartiennent pas au médecin. S'il lui offre les médicaments, ah ben ça c'est une nana, ça c'est une nana, c'est pas normal. Ce serait assour. Peut-être que s'il lui paye, ça compense et c'est réglé, ça va remédier au problème. Et le Ran, il prouve ça, qu'on avait vu, c'est une mara, que si jamais quelqu'un, il est moudar anam echavero, et son ami, il a pas quoi manger. Mais il est en danger maintenant. Il va mourir de faim. On est dans le désert, ça veut dire en dehors de la ville. Et si je ne donne pas à manger, il va mourir. Je peux lui donner, non. Je donne à quelqu'un d'autre qui va lui donner. Comme ça, il ne reçoit pas de moi, il reçoit de l'autre. Au moment où il reçoit, ce n'est plus à moi. Il n'est pas né de moi. Ou sinon, d'après certains, je le pose, je le rends efker. Et lui, de lui-même, il récupère. Mais ce n'est pas de moi, une fois de plus. Donc ça fait qu'il n'est pas né de moi, c'est moi. Et pourquoi tu dis pas que je fais une mitzvah? Quelqu'un qui n'a pas quoi manger, c'est comme un malade, c'est une mitzvah de lui sauver la vie. Alors à ce titre, je vais lui donner? Non, c'est pas permis pour autant. Donc la même chose, les médicaments pour le refouat nefesh. Le soin à la personne, c'est bien beau, tu peux venir lui faire des soins, d'accord? C'est pas rémunérant, c'est la mitzvah, etc. Et les traitements eux-mêmes, tu les factures, tu les donnes pas gratuits, ou bien ce sont ses médicaments. Lui, tu lui dis, prends ceci, prends cela, achète-toi tel médicament, je m'en occupe. C'est moi qui te fais l'injection, c'est moi qui te soigne. Ensuite, Mishnah. Il peut se baigner avec lui dans le même ambati. Alors, on a l'habitude de traduire ambati baignoire, mais il faut voir comment c'était à l'époque. À l'époque, les établissements de bains publics, il y avait là-bas plusieurs étapes, il y avait le fait de transpirer avec les vapeurs d'eau chaude, et il y avait aussi se baigner à l'eau chaude, etc. Alors, le ambati, on était dedans, dans de l'eau chaude, et je ne connais pas la forme, comment c'était exactement, mais voilà, il y avait des grandes ou des petites. Dans des grandes ou dans des petites, il y avait même la place pour plusieurs personnes. Maintenant, il y a le Moudar et le Madir. Réhouven et Shimon, un, il a fait un éder que l'autre ne puisse pas profiter de lui. Est-ce qu'ils peuvent occuper le même bâti à l'établissement de bain? Alors, une Gedola, oui, mais pas une Ktana. Pourquoi? Parce que dans la Ktana, quand l'un y rentre, il permet au niveau de l'eau de monter plus haut. Ben, l'autre, il va profiter. Ça lui couvre le corps avec l'eau chaude, c'est le but, on est là pour ça. Donc il profite mieux du Ambati quand il y a une autre personne, parce que le niveau est monté. Ce qui fait que le Moudar profite du Madir. C'est pourquoi c'est assourd. Mais une Gdola, ça ne se ressent pas. C'est tellement grand que ça ne va pas se ressentir un centimètre. Hein. Ce n'est pas perceptible, cette Anaha, c'est donc pas une Anaha, c'est permis. Veyachenimo Bamita, Rabbi Dormer, Bimotachama, Valo Bimotachami, Mipne Sheume Aneu. Ils peuvent dormir dans le même lit. Et Rabbi Yehuda nous précise, en été. En été, on n'a pas besoin de chaleur. Au contraire, il fait trop chaud. Aval Yimot Akshamim en hiver, qu'on a besoin de chaleur pour dormir. Alors c'est assourd, parce qu'à deux, le lit est plus chaud. Mipnecheumaneu, ça fait une anaa de profiter de la chaleur corporelle. Sans même le toucher, mais le lit est plus chaud. Le lit est plus chaud, c'est gagnant, c'est assourd. Donc, le Ra nous dira plus loin dans la Sugya qu'il y a un indice dans la Gemara que Rabbi Yehuda, il est que Mefaresh, ce qui a été dit. C'est pas un Machloket. Il y a aucun avis qui dit que Yashenimo Bamita d'emblée, toujours c'est permis. Il y a Rabbi Yehuda qui te précise le sujet. Qu'est-ce qu'on a dit Yashenimo Bamita, dit Rabbi Yehuda, à savoir le grand lit. À tout moment, on n'a pas encore parlé de grand lit et petit lit, ça apparaît dans la Gemara. Mais pour l'instant, il fait la différence entre été et hiver. Et il dit en hiver, c'est pas évident, parce que la chaleur corporelle profite à l'autre, et donc c'est assourd. Mais en été, c'est là où on a dit que c'est permis. Après, on verra dans la Gemara un autre paramètre et un autre avis concernant le lit. Mais pour l'instant, dans notre Mishnah, il y a un seul avis, retenons, ce Yashenimo Bamita, comme Rabbi Yehuda détermine de quelle manière, dans quel cas, grand lit et pas petit. Non, pardon, été et pas hiver. Autre sujet, Mesevimo Alamita, il peut s'attabler. À l'époque, on s'attablait, on était allongé sur un divan, devant une petite table. Chacun avait un divan. C'est possible qu'il y avait des divans assez longs pour accueillir plusieurs personnes. Ou un divan assez large pour que deux personnes l'occupent. Certainement dos à dos, chacun il a sa table de part et d'autre, si j'ai bien compris. Et donc dans cette configuration, c'est permis pour le Madir et le Moudar d'occuper le même divan, parce que il n'y a pas de hana mutuelle. Le Moudar ne profite pas du Madir, certainement parce que on n'a pas besoin de chaleur. Pas besoin de chaleur pour dormir. Là même que c'est l'hiver, t'as tes habits. Quand on dormait à l'époque, on n'avait pas vraiment les habits, donc on a besoin de chaleur, donc la couverture, et quand on est sous la couverture à deux, ça chauffe plus, le lit, donc c'est pourquoi il y a une question de Hana. Par contre, le divan, chacun il est habillé, chacun il sait, il a la solution par rapport à l'atmosphère, il n'est pas en souffrance par rapport à l'atmosphère pour avoir à attendre une chaleur de l'autre. Et donc, oublie, il n'y a pas de Hana. Même que c'est en hiver, et peut-être il n'y a même pas de couverture, donc l'un, sa chaleur, elle va dans l'atmosphère, elle ne réchauffe pas l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Sur le divan, pour être mesev, c'est moutard. Veochel, c'est ça être mesev à la mita. La mita, ce n'est pas ici le lit pour dormir. C'est la mita qui est devant la table pour manger. Veochel, imo à la shulchan. Il peut manger à la même table. Le chidouche, c'est qu'on ne croit, on ne craint pas qu'il va piocher dans l'assiette de l'autre. Si on devait craindre à ça, ben, fallait interdire. Et bien, Maître Lerichoni nous explique pourquoi on ne craint pas. Ailleurs, on a trouvé qu'on craint. Le Rosh, il parle de ça. On a vu que, par exemple, quelqu'un, il mange chalavi, et l'autre, bassari. À la même table? Non, deux amis, ils peuvent pas, s'ils se connaissent. De peur qu'ils piochent chez l'autre. Mais toi, tu manges de la viande, comment tu pioches du fromage? Et là, le Rosh nous dit parce que s'il y a un éder, c'est qu'ils se sont grillés. comment tu m'interdis de profiter de toi? C'est qu'il y a eu un clash entre eux, ils sont en froid. Alors, dans ce contexte, on ne craint pas qu'il va piocher dans l'assiette de l'autre. Tu ne te permets pas, d'accord? Tu es en froid avec l'autre. Et là, il n'y a pas à craindre, c'est pourquoi ils peuvent manger à la même table. Et c'est ça le chidouche de cette affirmation. Avalominatam chouy, mais ils ne peuvent pas manger dans l'assiette commune. Un plat commun, duquel chacun se sert pour soi, ce plat, il est au milieu de la table. Ils ne peuvent pas le partager ensemble. Ils ont été servis à deux, non? Pourquoi? Alors, Loran explique, parce que si un, il mange un peu moins en faveur de l'autre, ça s'appelle qu'il lui fait un là. Je ne suis pas sûr, ou qu'ils l'ont payé à deux, ce plat. Ils étaient au restaurant, ils l'ont payé équitablement. Un, il va manger moins pour que l'autre mange plus. Il lui a fait une nana. Ou qu'ils étaient invités. Mais une fois de plus, je te laisse de ma part pour que toi, tu puisses en profiter. Pourtant, on nous l'a donné équitablement. C'est comme si je te donne ce qui me revient, je te le cède. Tu es néné. Et donc, c'est pourquoi c'est assur. Aval ochelu mina tamru yachoser. Mais s'agissant d'un tamru yachoser, c'est permis. Quand ce plat collectif, il revient au balabaït, la Gemara dira, il revient au balabaït, ça veut dire qu'il y a tellement dedans qu'on peut manger les deux et il y en aura encore. On va le rendre au balabaït. Ça veut dire à ce moment-là que je te profite pas du tout si je mange moins. Parce que tu peux manger autant. Moi, je pouvais manger autant que je veux et toi aussi, il y en avait encore. Donc, c'est pourquoi là, c'est permis. Tania, dans une braïta, on reprend le sujet et de Ambati et de Mita. Lo yichatzimo be Ambati ve lo yishanimo be Mita. Il ne doit pas se baigner dans la même Ambati et ni dormir dans le même lit. Ben gdola ben ktana, que ce soit un grand ou un petit, divrei Rabbi Meir. Le Ran explique, grand, petit, ça se rapporte à Ambati et à Mita. Pour les deux sujets, Rabbi Meir ne fait pas de distinction. Pourtant, il y a bien sûr une distinction énorme. Ambati, on l'a dit dans la Mishnah, si c'est une gdola, ça ne fait rien du tout. Le niveau d'eau, il ne monte pas parce qu'il y a une deuxième personne. Si c'est une ktana, oui, ça fait monter 10 cm, ben le Moudarana, il profite. Eh bien non, Rabbi Meir ne fait pas la différence. Ça veut dire qu'il est gozer, le grand, à tout le petit. On ne veut pas qu'on rentre dans ça. Ça s'entend. Parce qu'après, qui va me dire qu'est-ce qui s'appelle grand, qu'est-ce qui s'appelle petit, et à quel moment ça commence le Isurana, que dès que ça monte 1 cm ou 4 cm, c'est comment tu sais quand tu... commence pas avec ça. Pour moi, il n'y a pas de différence, grand, petit, tout est assur. C'est ça, Rabbi Meir. La même chose pour le lit. Le lit, tu vas me dire, un grand. Alors, même en hiver, la chaleur se perd. Il est grand, donc on est éloigné, donc ça ne profite pas à l'autre. Donc tu vas me dire que c'est moutard. Non, je ne veux pas savoir, parce que qui fait la différence entre un grand et un petit, tu sais exactement. Commence pas avec ça. Tout est assur. Ça, c'est la démarche de Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, Gedola bimotak shamim, vektana bimotak hama. Moutard. Un grand lit, même en hiver. Parce qu'ils sont assez distants pour que la chaleur de l'un ne profite pas à l'autre. C'est pourquoi c'est permis même en hiver. Mais un petit, ce sera permis en été, qu'on n'a pas besoin de chaleur. Le Ran nous dit que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, et il parlait du petit lit. C'est pourquoi il a dissocié entre l'été et l'hiver. Parce que là, on voit le grand lit, même en hiver, c'est permis. Donc notre Mishnah, c'était un petit lit. Et un petit lit, signé Rabbi Yehuda. Et il n'y a que Rabbi Yehuda qui parle dans la Mishnah, comme je l'ai dit en lisant la Mishnah. Et la preuve en est faite ici, parce que si Tanakama dit Yashanim Obamita d'emblée, c'est toujours permis, alors Tanakama, c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il est au serre, été, hiver. Tout, tout. Grand, petit, il n'y a pas de différence. Il n'a fait aucune différence. Il fait xéra un cas à cause de l'autre. Rabbi Yehuda, il fait la différence grand, petit, été, hiver. Et si un Tanakama qui dit Yashalim Obamita d'emblée, tout est permis, ça colle ni avec Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir. C'est invraisemblable. C'est pourquoi le Ran nous dit qu'il n'y a pas de Tanakama anonyme qui affirme Yashalim Obamita formellement. Non. Yashalim Obamita, comme Rabbi Yehuda précise, dans la manière que Rabbi Yehuda va déterminer tout de suite. Donc, Rabbi Yehuda, c'est le commentaire de Yashanim Obamita. Si bien qu'il n'y a que deux Shitot, ou bien je dis, je ne fais pas de distinction, ou bien je fais des distinctions au cas par cas. Point. Umaziaimo bektana. Alors, on a dit, Rochetsimo, Bimotachama, Mouta. Rabbi Omer, Gidola, Bimotak Jamim, Victana, Bimotachama, point. Mouta. Gedola, Bimotak Jamim, Victana, Bimotachama. Ces deux sujets, c'est Mouta, point. Rochet, Imo, Bambati, Gedola, ou Mazia, Imo, Bektana. C'est toujours Rabbi Omer qui continue avec Ambati. Il dit que pour moi, une grande, il n'y a pas de problème. Si vous entendez une ktana, je veux bien, comme Rabbi Omer, tu l'interdis, je l'interdis, parce que le niveau, il monte, il profite, etc. Mais une gdola, que ça ne fait pas d'effet, alors c'est permis. Ou mezia imo biktana, quand c'est que zéa qui est recherché, ce n'est pas un bain d'eau chaude qu'on a dans la ambatia. L'ambati, c'est un espace où il y a des vapeurs chaudes qui aident à transpirer, c'est le but. Alors là, même que c'est un bati ktana, ça ne change pas. Qu'ils sont là à deux, l'un ne profite pas à l'autre. Aval mesevimo à la mita, ils peuvent. C'est la Mishnah qui a dit qu'ils peuvent être mesev à la mita. Veochelimo à la shulchan. Avalominatam rouy. Alors, c'est possible qu'ici, il y avait des petits points qui ont sauté. Ça a l'air d'être une piska, qu'on reprend un passage de la Mishnah pour développer. D'accord ? Comme on a dit, aval mesevimo à la mita, ochelimo à la shulchan, tout ça, c'était dans la Mishnah. Avalominatam rouy, pas d'un plat à l'assiette collective. Avalocheluminatam rouy achoser. Tout ça, je crois que c'est juste une citation de la Mishnah. Ce n'est pas le développement de la Gemara. C'est une piska, comme on dit, un segment de la Mishnah qui est repris, qu'on doit développer. Et c'est là où intervient le Amora. Amarabusi barabi chanina. Viens le Amora Rabusi barabi chanina commenter. C'est quoi cette histoire de tam rouy achoser? Minatam rouy achoser le balabayit. C'est le plat qui revient au balabait, ça veut dire que même si l'un y mange et l'autre, il y en a assez pour les deux, autant qu'ils veulent, il y en a à volonté. Dans ce cas-là, si l'un y mange moins, il n'aura pas profité à l'autre, parce que ce n'est pas ça qui fera qu'il y en a, il y en aura de toutes les façons en plus. Donc dans ce cas-là, ils peuvent, ça ne s'appelle pas une nana. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Zakou Baruch.